En 2022, Sylvain Lefebvre achète une parcelle de 7500 m² à Assigné, près de Rennes, qu'il baptise l'Oasis. Son objectif est de faire évoluer ce terrain recouvert d'une plantation très linéaire vers une mosaïque d'habitats diversifiés. Pour ce faire, des chantiers participatifs sont régulièrement organisés et font de l'Oasis un lieu de rencontre et un support pour l'éducation à l'environnement.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Alexis.
Comment vas-tu ?
Impeccable, merci. Et toi ?
Ben, très bien. Écoute, pour commencer, je te laisse te présenter si tu veux bien.
Eh bien, donc moi c'est Sylvain Lefebvre. Je me définis souvent comme un curieux de nature. Voilà, donc je suis un passionné de faune sauvage, un passionné d'images également, photo et vidéo naturaliste. Voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là, j'en ai fait mon métier. Donc aujourd'hui, je travaille dans le tourisme en tant que salarié pour un tour opérateur. J'ai une casquette d'indépendant en tant qu'auto-entrepreneur où je travaille dans l'éducation à l'environnement, plutôt sur la faune de proximité. Voilà, donc tout ça gravite autour du vivant et de l'éducation à l'environnement.
Et donc là, aujourd'hui, on est sur ce que tu appelles l'Oasis.
Exactement.
En plein milieu, là, on enregistre dehors. Est-ce que tu peux présenter l'Oasis, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'Oasis, c'est le nom que j'ai donné à une parcelle qui fait 7500 m². Donc ici, on est à Assigné, dans la commune d'Assigné, à 2 km du centre-ville. Donc on est effectivement dans le bocage, dehors, entre des parcelles agricoles, des haies et puis des petites plantations forestières. Donc cette parcelle-là, en fait, là autour de nous, on a 10 rangées d'arbres qui ont été semées en fait par l'ancien propriétaire en 2007. Donc les arbres ont tous ici le même âge, sont tous relativement jeunes. Et puis un sol qui est celui, le sol on va dire un petit peu spontané, donc pas mal d'herbes, de ronces, d'orties et puis quelques fleurs un peu éparses. Et j'ai acheté moi ce terrain-là donc l'année dernière, en mars 2022, avec l'idée de le transformer en refuge de biodiversité. Et de continuer en fait une expérience que j'ai menée moi pendant 10 ans à la maison, dans mon jardin, qui est aussi un joli terrain de jeu. Donc le point de départ c'était un gazon avec 2-3 arbres, et puis à force de créer des petits aménagements, de mettre en place des végétations un petit peu ciblées, je me suis bien rendu compte qu'on pouvait en fait booster le nombre d'espèces sur une petite surface. Donc voilà, c'est un petit peu dans cette optique-là que j'ai acheté ce terrain. C'est-à-dire, je voulais passer au niveau du dessus. Et donc, je relance un peu cette aventure-là. Sauf qu'au lieu de partir d'un gazon, bah, je parle d'une futaie, ce qu'on appelle une futaie régulière, c'est-à-dire une zone de plantation créée par l'homme, quelque part. Donc, le point de départ est un tout petit peu différent. Et puis, au lieu de faire ça en famille, bah, j'ai envie de mener cette aventure avec les habitants de la commune et au-delà. J'essaie de mettre en place des chantiers assez régulièrement. Donc, pour le moment, on arrive à se voir 2 week-ends par mois, grosso modo. Enfin, deux demi-journées par mois.
C'est quel type de chantier que tu proposes ?
Et bah là, il y a eu un travail d'abattage d'arbres. Je m'attendais pas à commencer un projet de biodiversité en coupant des arbres, mais c'était la réalité du moment. C'est-à-dire que comme les arbres ont été semés, bah, il y avait une très forte densité d'arbres. Il n'y a pas eu du tout ce travail pour éclaircir un petit peu la parcelle. Donc, je me suis fait aider par un forestier qui est un naturaliste aussi. Donc, il y avait cette approche vraiment conservation de l'arbre et pas juste exploitation pour le bois. Donc, ça, c'était super d'échanger avec quelqu'un comme ça. Et puis, donc voilà, on a enlevé déjà des arbres qui étaient malades, puisqu'il y avait des châtaigniers qui avaient le chancre. Donc là, il y a eu quelques chantiers de cette nature-là. Tout le bois mort est resté sur place, parce que le bois mort l'est en apparence, mais il est vivant pour plein d'autres espèces. Donc ça a été un premier volet. Après, on a eu des opérations nichoirs. Il y a une quarantaine de nichoirs qui ont été posés pour tout un tas d'espèces d'oiseaux. Et puis là, le week-end dernier, grosse opération autour de la mare. L'année dernière, j'ai fait venir une mini-pelle. On a creusé 2 trous. Et le but, là, maintenant, c'est de donner une forme à ces trous et de mettre en place des points d'eau avec l'objectif qu'on arrive à garder de l'eau toute l'année. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter aussi à la maison. Voilà, c'est pas une grande nouvelle, mais l'eau attire évidemment beaucoup de biodiversité. On a tout un tas d'insectes qui en dépendent dans leur cycle de vie, des insectes qu'on voit voler mais qui naissent dans l'eau, comme les libellules par exemple. On a tous les amphibiens qui sont indissociables du milieu aquatique, donc qui sont présents sur le terrain ici en hivernage, mais créer une mare, c'est aussi leur créer un nouveau lieu de reproduction. Donc, dans une période où les mares s'assèchent de plus en plus l'été, voire disparaissent complètement parce qu'on a lissé nos paysages, bah, recréer des mares, ça fait partie des choses quand même qui se font beaucoup en termes de conservation. Donc, il y a ce chantier-là. Et puis, voilà, moi, j'ai plein d'autres idées. Des murets de pierres sèches aussi, j'aimerais bien, parce qu'on a des choses comme ça. Et puis, végétaliser.
C'est quel type de gens qui participent à ces chantiers ?
Eh ben, j'ai un petit peu de tout. Ça a été très famille au début, hein, donc vraiment des résidents de la commune. Ça rayonne, ça diffuse au-delà de la commune. Donc il y a des gens voilà qui arrivent de Bourbarré, par exemple. Hein, donc on est à 20-30 minutes d'ici. Donc des gens qui viennent en famille, puisque les enfants sont bienvenus et j'ai à cœur aussi d'accueillir des enfants. Et puis j'ai commencé à travailler aussi avec d'autres publics. Là, c'est pareil, ça a été des perches tendues ou des gens qui m'ont demandé. J'ai eu l'occasion d'accueillir quelques jeunes, par exemple en situation de handicap, de l'IME La Bretèche de Rennes. J'ai eu l'occasion de travailler avec des élèves en seconde du lycée agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. Là, la semaine prochaine, je reçois quelqu'un du programme Unicité, donc qui pilote des jeunes pour des services civiques. Ouais, voilà, il y a des gens qui s'intéressent à l'endroit. Ce qui va me manquer, c'est du temps, parce que évidemment, il y a le travail à côté, il y a la famille à côté, et je vois bien qu'ici, j'aurai quelqu'un à plein temps. Il y aurait des choses à faire, quoi, clairement.
Parce que là, actuellement, combien de temps ça te prend ou comment tu arrives à te libérer à
ça me prend pas oui ça me prend du temps parce qu'il y a des mails à envoyer, des échanges téléphoniques que je reçois du monde ici pour présenter un petit peu le projet, mais bon la semaine on est au boulot, donc le temps passé c'est plutôt sur le terrain le week-end. Après c'est tout le travail de sous-marin le soir sur l'ordinateur, puis de temps, voilà, moi j'aurais aimé là toute cette première année, j'aurais aimé y passer plus de temps en affût par exemple. Voilà, il y a des chevreuils, il y a des renards, il y a des blaireaux, il y a des fouines qui passent ici, et donc tout ça je le sais parce que j'ai mis en place des pièges vidéo. Donc voilà, mais on a aussi toutes ces petites créatures qui sont présentes là. Il y a par exemple hier soir, je suis venu sur le terrain de nuit, j'ai dénombré 34 salamandres. Des salamandres tachetées. J'en ai jamais vu autant en une heure et demie. Donc c'est un terrain, c'est pas grâce à moi, hein, c'est le fait est que j'ai acheté un terrain où il y a beaucoup de salamandres. En faisant la même sortie l'année dernière, j'avais vu des tritons marbrés, j'ai vu du triton palmé, on a vu une grenouille agile, on a vu un crapaud commun. Donc ici, moi je suis convaincu que la marque est en train de se remplir, qu'on a terminé il y a 15 jours. Je suis convaincu que l'année prochaine, on aura des pontes d'amphibiens. Et dans la mare du bas, d'ailleurs, cette année, on a vu des larves de salamandres. On a juste fait un trou, hein. Ça s'est rempli tout seul, on n'a rien aménagé encore, et il y avait des larves de salamandres. Donc c'est un lieu de reproduction qui a été pris d'assaut, clairement, par cette espèce, ça a été pris d'assaut.
Ton objectif, toi, c'est de faire des comptages réguliers comme ça ?
C'est pareil, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Hein. C'est un os à ronger pour 10 ans, pour 15 ans, là, ce terrain-là. Donc oui, là, avec les salamandres, par exemple, je commence un peu de photo-identification, puisque c'est très facile d'identifier tous les individus, parce qu'ils ont tous des dessins différents. Donc on les prend en photo, on peut facilement faire un classeur, on peut faire remonter ça au Muséum d'Histoire Naturelle, parce qu'il y a des programmes de sciences participatives aussi, qui sont de plus en plus mis en avant dans la société. Donc on peut aider aussi tout ce travail en termes de conservation en faisant de la saisie de données. Donc ça, on peut imaginer des suivis. Si quelqu'un dans le projet veut prendre en charge ça, ce serait super. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Barbara May qui travaille pour un programme de suivi des insectes pollinisateurs qui s'appelle le SPIPOL, qui est pareil, qui est piloté par le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc c'est aussi un programme de sciences participatives avec son petit protocole qui est relativement simple. En gros, on se poste sur une plante à fleurs pendant 20 minutes, on photographie tous les insectes qui interagissent avec cette plante, on fait remonter ça au muséum. On a des cartographies qui sont faites avec la répartition des espèces, etc. Donc on a commencé aussi, enfin Barbara a commencé au point zéro de ce terrain, enfin au point actuel. Et puis effectivement, on peut se poser la question de savoir dans 5-6 ans, quand on aura, j'espère, réussi à diversifier les plantes à fleurs, est-ce qu'on aura plus de diversité ? Ça, ce serait intéressant. Mais voilà, on sait que pour certains papillons, par exemple, on sait qu'il y a des espèces végétales très précises où les papillons viennent pondre. Et quand on veut protéger certains papillons, il suffit de remettre cette plante sur le terrain. Enfin, il suffit. Il faut que le papillon soit présent quand même. Mais en remettant cette plante-là, c'est pareil. On va les booster, en fait. On va les booster la reproduction. Donc voilà, ça reste une goutte d'eau. Hein, on fera pas pencher la balance. Mais il y a ce côté aussi, après, éducation à l'environnement. Essayer de quantifier quand même ce qui se passe ici avec les sciences participatives. Je pense que c'est un bon sujet. J'ai la chance aussi d'avoir Louis Diard, qui est l'auteur de l'Atlas de la flore d'Ille-et-Vilaine. Donc, une petite pointure sur la flore dans notre département. Donc, lui, il est venu, il a fait 4 relevés botaniques aussi. Donc, on sait maintenant très précisément ce qui pousse en termes de plantes sur le terrain. Donc voilà, il y a un vivier, il y a du monde. Il y a des compétences. Moi, je suis un amateur éclairé, mais j'ai plein de choses à apprendre aussi. Mais en fait, depuis un an, là, ça vient de lancer. Il y a plein de, d'hameçons, en fait, qui tirent de tous les côtés. Et puis derrière, voilà, moi, je monte aussi des vidéos autour de tout ça pour peut-être inspirer d'autres projets à droite, à gauche. On fait des petites capsules vidéo. Là, la mare, c'est pareil. On a fait une petite capsule de dire, bah, voilà comment on a fait. Et puis, j'en ferai une dans un an pour dire, bah, voilà la mare où elle en est. Et je suis sûr qu'il y aura des histoires à raconter.
J'aimerais bien, on t'en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais revenir sur les espèces présentes ici.
Oui.
Animal et végétal. Est-ce que depuis le début du projet, tu as vu de nouvelles espèces arriver déjà ?
Alors non. De nouvelles espèces, non. Je pense que c'est encore un peu tôt. Ce qui se passera certainement avant, c'est qu'on aura créé des lieux de reproduction pour des espèces déjà en place, mais des lieux de reproduction qui auront été exploités. Donc ça, c'est quand même chouette. Hein, par exemple, ici, sur la parcelle, je disais, c'est des arbres qui ont 15 ans, juste. Donc, ces arbres sont trop jeunes, par exemple, pour que un pic viennent y creuser un trou. Donc le pic, il va pas réussir, par exemple, lui, à nicher ici. Donc on peut mettre un nichoir à pic, par exemple. Donc voilà, ça va être un lieu de reproduction supplémentaire. Un pic qui vient creuser, il exploite le nid pendant un an. Après, il s'en va, il en fera un autre les années suivantes. Mais ce trou qu'il a créé, il va servir à d'autres oiseaux cavernicoles ou semi-cavernicoles, des mésanges, par exemple. Donc le nichoir, c'est pas quelque chose qui va révolutionner le monde, mais c'est pareil, ça crée un petit... Ça crée un lieu de reproduction dans un endroit où, bah, sur une parcelle où il l'a pas trouvé. Mais ce qu'on va vite voir arriver, c'est ça. En fait, ça va être des endroits où on va avoir de la reproduction. Des nouvelles espèces, on verra. Je pense que ça peut arriver chez les insectes. Probablement, ce sera chez les insectes. Dans la végétation, les nouvelles espèces seront celles qu'on aura semées, qu'on aura plantées. Donc, elles seront locales. Hein. Ce sera pas ovni, on va dire ici, mais on va les apporter. Donc, ce sera un petit peu différent. Donc j'espère que les bonnes surprises, elles arriveront avec les insectes, mais ce seront non pas des nouvelles espèces dans le bocage, mais des nouvelles espèces qui arriveront sur cette parcelle, qui vont interagir avec cette parcelle, qui vont venir s'y nourrir, s'y reproduire, s'y cacher. Donc voilà, ce sera plutôt ça, la logique.
Tu parlais des vidéos, donc tu as fait une chaîne YouTube pour documenter un peu les avancées des travaux. Tu t'es... pas mal encadré de professionnels pour lancer un petit peu le projet. Tu parlais tout à l'heure du forestier, ouais. Il y avait le sourcier, etc.
Ouais.
Et ça donne l'impression que même dans les vidéos, toi, tu apprends vachement de cette expérience-là aussi. Ah, quoi. Est-ce que c'est des compétences que tu n'avais pas forcément ?
Ah, complètement. Ah ouais, complètement. C'est la première fois que je fais ça. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Après, moi, je suis pas trop mauvais, on va dire, en termes de passeur. Mais après, pour le côté vraiment expertise, comment sélectionner des arbres à l'abattage quand on a eu besoin de le faire au début, identifier un arbre malade, tout ça, moi, je sais pas le faire. Donc, c'est bien d'avoir aussi dans le réseau des gens qui, à un moment, te disent, bah, attends, va pas trop vite. on va venir, jeter un œil. Donc, ça, c'est très bien. Mais après, non, ces compétences-là, bah, soit ce sont des gens que je connais, soit ce sont des connaissances de connaissances, soit, bah, à force, de ce petit bouche à oreille autour de l'Oasis se mette en place, eh bien, y a des gens qui se manifestent aussi. Puis là, je sais qu'il y a un nouveau réseau aussi qui va sortir avec le département, puisque on a eu la chance de faire partie des lauréats du premier budget participatif du département Ille-et-Vilaine. Donc, ça a été un budget citoyen. Il y a 60 projets qui ont été retenus sur l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine. Donc, il y avait 2 millions d'euros sur la table à répartir sur une soixantaine de lauréats. Donc, les gens ont été invités à voter pour un, deux ou trois projets qu'ils voulaient soutenir. En fait, le message aussi de ce qu'on fait ici, c'est diffusé comme ça, parce que chacun allait voir au bureau, parler de l'Oasis, voilà, si vous voulez, vous pouvez voter pour ce projet-là, etc. Donc voilà, ça diffuse bien plus que ce que je pense, en fait.
Là, le budget participatif, ça t'a rapporté combien, là ?
22 000 euros.
Ah oui, donc c'est pas négligeable.
Ouais. Ah bah là, c'est génial. Moi, j'ai un terrain, j'ai des bras et j'ai de l'argent, maintenant.
Jusque-là, tu finançais toi-même ?
Et jusque-là, je finançais moi-même, ouais. Bon, je l'ai fait pendant un an. Là, j'arrive un peu au bout de cette façon de procéder. Et cette subvention, là, ça va être un tournant, en fait, dans la saison 2. Moi, j'ai lancé la saison 1 un peu tout seul avec les premiers bénévoles qui sont venus, qui m'ont donné de l'énergie pour continuer. Et là, on attaque la saison 2 avec une enveloppe dans laquelle j'ai déjà commencé à taper, puisqu'on a acheté donc géotextile et bâches pour la mare. Là, j'ai lancé la fabrication d'un affût mobile pour initier le grand public à l'affût animalier. Donc, en fait, là, je vais essayer de construire l'Oasis mobile. Je sais pas comment je vais l'appeler après, mais donc ça va être sur une petite plateforme de remorque Une petite cabane dans laquelle on peut s'allonger à deux ou s'asseoir en tailleur à trois avec un maximum de vitres sans teint. Donc quelque chose d'assez immersif, on va dire, en termes d'observation. Donc voilà, un endroit où on va être assis sur des matelas. On va pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur, mais les animaux ne nous verront pas à l'intérieur. Et donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est la subvention qui me permet de débloquer cet achat. Et la construction, elle a commencé, on a sur un projet sur mesure, je fais travailler des artisans de la commune, la cabanerie. Ça va être génial, parce que là, clairement, pouvoir dire à des familles, si vous voulez, je vous donne les clés de la cabane, vous vous mettez à l'intérieur, et si vous voulez dormir sur place, dormez sur place, et vous passez la nuit. Et puis, ça va être génial aussi.
Ça fait un an que tu as lancé le projet. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que tu en retires pour l'instant ?
Ça fait du bien au moral, déjà, parce qu'on est quand même envahi par les mauvaises nouvelles, qui sont une réalité. Mais c'est vrai que dès qu'on regarde un peu ce qui se passe dans la nature, on est assommé par ce changement climatique, par cette érosion de la biodiversité. Alors, je dis érosion, le terme exact, c'est quand même la sixième extinction de masse qui nous tombe dessus. Les chiffres sont terrifiants. Quand on dit que 80% de nos insectes pollinisateurs ont disparu en Europe en 30 ans, ça fait quand même froid dans le dos. Donc, de se remettre à une échelle locale, d'agir à son échelle, de voir que des gens sont intéressés, qui viennent transpirer un peu ici, qui diffusent des messages, ça fait du bien. Donc déjà, ça sert à ça. Déjà, ça sert à ça. Et les bonnes nouvelles font du bien et on a besoin de bonnes nouvelles pour avancer. Après, encore une fois, ce projet-là, c'est une goutte d'eau, ça va pas faire changer les choses. Mais petit à petit, les petites gouttes d'eau font les grands fleuves, ça, c'est ce qu'on se plaît à dire. Après, est-ce que ça suffira ? J'ose pas de dire ce que j'ai en tête. Mais voilà, on va pas rester les bras croisés en attendant.
C'est quoi les futures étapes de l'Oasis, là, ou les futurs projets que tu peux avoir ?
Là, très court terme, le prochain rendez-vous important pour les chantiers, là, ce sera donc mi-décembre avec des plantations. Donc là, j'ai acheté donc 210 plants âgés de 2 ans. Plutôt arbustif, donc des espèces de haies bocagères. On va avoir de l'ajon, on va avoir de l'aubépine, on va avoir de l'églantier, on va avoir des espèces un peu comme ça. Donc on va en mettre un petit peu partout sur le terrain. Donc là, il y a de quoi nourrir quelques bénévoles sur quelques sessions. Ensuite, il va falloir végétaliser la mare qu'on a créée, même les deux qu'on a mis en place, parce que là, on a besoin de plantes aussi pour que le système vive et s'équilibre. Des murets de pierre sèche, comme je disais tout à l'heure, l'arrivée de l'Oasis mobile, donc ça c'est les prochaines étapes à très court terme. Et puis à moyen terme, j'ai peut-être l'arrivée des premières classes, ça ce serait assez chouette aussi. Là c'est encore un peu tôt parce que ça manque de diversité d'espèces pour des maternelles, il faut qu'il y ait plein de petites bêtes, il faut que l'endroit soit quand même relativement accessible. Là, il y a beaucoup de ronces, il y a beaucoup d'orties. Alors, on a besoin de ces plantes-là aussi, mais je pense qu'on les limitera à des zones un peu plus restreintes que ce qu'on a là. Et puis voilà, après, j'ai pas toutes les cartes en main, on verra bien.
Et mettons, suite à ce podcast, il y a plein de personnes qui sont intéressées pour venir te donner un coup de main. Où est-ce qu'on peut te contacter ? Où est-ce qu'on peut suivre le calendrier ?
Alors, c'est
travaux.
Rendez-vous sur mon site perso. Le projet n'a pas encore de site internet dédié. Ça fait partie certainement des choses qui viendront dans le moyen terme. Donc, c'est sylvainlefebvre-photovideo.com.
Je mettrai ça en description de l'épisode. Ouais.
Voilà, et là, il y a un onglet contact avec une adresse mail. Vous m'envoyez un petit mot en me disant le projet m'intéresse. Je vous mets dans la mailing list. Et puis, vous recevez les prochaines actus. Et sur ce site-là, il y a également dans le menu un onglet dédié à l'Oasis, avec toutes les vidéos qui ont été tournées, avec quelques infos pratiques et les dates des prochains chantiers. Il y a un petit calendrier qui est mis à jour. Donc c'est le but du jeu pour ceux qui veulent venir au moins découvrir le projet, pas forcément mouiller le maillot, mais venir prendre de l'info. Le mieux c'est d'envoyer un petit mail depuis le site internet.
Parfait. Écoute, merci beaucoup Sylvain.
Merci, c'était super.
Ouais.
Impeccable. Merci beaucoup.
À bientôt.
Au plaisir.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois.